Les étudiantes et étudiants relais égalité s'invitent dans l'apérophonie.
La libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière.
I will not be lectured about sexism and misogyny by this.
El aborto sea legal, seguro y gratuito.
Les émissions parlent de lutte contre les violences et la discrimination à l'université et en dehors sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8, mais également Fréquence Mistral Briançon.
Il y a quelques jours à peine, un événement historique a eu lieu en France, hein, puisque le 4 mars 2024, pour la première fois dans le monde, il y a eu mention de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans un texte fondamental. Donc c'est le sujet dont on va traiter aujourd'hui, l'avortement. Voilà, je laisse la parole à Nicolas.
Donc je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en légalité, je suis avec Lisa.
Bonjour.
Et les étudiants en légalité, on travaille avec l'université Grenoble-Alpes pour la promotion de l'égalité, la lutte contre toutes les formes de discrimination. En ce moment, c'est le mois de l'égalité, donc n'hésitez pas à passer si vous voyez des événements.
Et donc pour réaliser cette émission, on a la chance d'être en présence de Lorraine et Claire. Je vais vous laisser vous présenter. Claire, si vous voulez commencer.
Oui, avec plaisir, bonjour. Eh ben, moi je m'appelle Claire Trouvé, je fais partie d'un collectif artistique qui s'appelle le collectif Takamaka. On est basé ici sur Grenoble, on existe depuis un peu plus de 2 ans. Et du coup on a notamment, parce qu'on a des activités assez variées, mais on a créé un spectacle qui s'appelle Là-dessous, qu'on tourne depuis un peu plus d'un an, et qui du coup aborde la thématique de l'avortement sous le prisme de l'intime, puisqu'on a réalisé des témoignages en fait pour s'inspirer et écrire ce spectacle, voilà. Et on a eu la chance de le jouer il y a une seule pile à l'Est, donc la programmation de l'ouvre-boîte sur le campus à Grenoble, et on était super contents d'être là.
Et vous, Laurent ?
Bonjour, moi je suis le docteur Laurent Besson, je suis médecin généraliste, je suis la directrice du centre de santé sexuelle sur l'université, et le centre de santé sexuelle il se trouve dans l'enceinte du centre de santé étudiant à Muse, au premier étage, et voilà, on lise beaucoup de consultations gynéco et notamment des IVG.
Merci à vous.
Oui, on vous rappelle qu'il est possible de nous appeler ou de nous écrire pendant cette émission. Si vous avez des questions à poser aux invités, vous pouvez nous joindre au 07 77 77 77 42.
Alors, pour commencer cette émission, on dit que ce serait quand même bien de faire un petit point historique, enfin historico-politique plutôt, sur l'IVG. Et donc, pour nous, c'était important de commencer par préciser la différence entre droit et liberté d'accès à l'avortement, puisque donc, comme on l'a dit avant, l'IVG a été mentionné donc dans un nouvel article de la Constitution. Mais la liberté garantie d'accès à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse qui a été inscrite. Et donc la vraie différence avec le droit, c'est l'implication, l'engagement de l'État dans cette reprise. C'est-à-dire que dans un droit, l'État va avoir l'obligation de fournir aux femmes qui souhaitent avorter toutes les infrastructures, tout le matériel, toute la main d'œuvre également du coup via les médecins nécessaires pour réaliser l'IVG, que ce soit médicamenteux ou chirurgical en fonction de leur choix. On reviendra sur ces notions aussi. Donc voilà pour introduire ça, Nicolas.
Oui. D'ailleurs, on peut noter que vous faites la représentation là-dessous, chez les Croquards à la Roche de Rame, le 15 mars à 20h.
Merci de précision, on avait oublié de le mentionner. Alors, petite première question justement pour ce point historico-politique. Est-ce que vous pouvez peut-être, Lorraine notamment, puis Claire bien sûr, nous parler de la situation avant la légalisation de l'avortement en France? Quels risques il y avait pour les femmes non seulement qui pratiquaient l'avortement, qui se faisaient avorter, mais aussi celles qu'on appelait les faiseuses d'anges, donc les personnes qui rendaient l'avortement possible pour ces femmes. Donc on rappelle que Là, la loi Veil est passée en 75, donc avant 1975, comment les femmes faisaient pour réaliser des avortements?
Alors moi, je suis pas historienne, je fais des IVG depuis pas très longtemps. Par contre, il y a quelques ouvrages que j'ai lus, notamment une BD qui est super bien faite, et je sais que BD, c'est plus facile à lire parfois que les gros livres, qui s'appelle « Le manifeste des 343 ». Et effectivement, il y a des, on voit ce qui se passait, c'est-à-dire que vu que c'était pas légalisé, ça se faisait sous cap, bah dans des appartements de faiseuses d'anges qui pouvaient être pas du tout dans le médical, ou parfois des infirmières ou des sages-femmes qui faisaient ça dans l'illégalité. Donc il y avait un risque pour la femme qui pratiquait l'IVG avec un risque de complications ou de décès. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de méthode sûre, et un risque également pour la personne qui pratiquait l'IVG puisqu'elle était dans l'illégalité.
D'accord, merci. Claire, dans votre spectacle, vous l'avez dit, vous avez réalisé des interviews. Est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'échanger avec des personnes qui ont eu cours à l'IVG avant du coup la légalisation de cet exercice?
Alors moi pas directement. Après j'ai tout de suite été avec le planning familial de Grenoble, qui est le premier planning familial de France, et voilà, dont toute l'équipe m'a apporté beaucoup de soutien, dont vraiment dans la préparation, la documentation aussi de ce spectacle. Ils ont un centre de ressources important dans lequel du coup là j'ai beaucoup lu de témoignages avant la légalisation. Et sinon, les interviews que j'ai réalisées, il se trouve que du coup c'est tombé plutôt sur des femmes qui ont avorté une fois que c'était déjà légal. Et peut-être moi ce que je peux juste dire pour ça, c'est que globalement, en étant peut-être très très schématique, mais ce qui dégage, on va dire, des récits, de vécus avant la légalisation, c'est que tout l'enjeu, c'est comment je fais pour avorter. Voilà. Et c'est tout ce qui en découle, les difficultés que les femmes rencontraient à ce moment-là pour faire pratiquer, arriver à avorter. Et une fois que c'est devenu légal, là il y a un qui s'est décalé, on va dire, dans le vécu, et qui est plus devenu qu'est-ce que je fais. Voilà. Et moi, c'est de ça que j'ai voulu parler dans le spectacle, avec l'idée que ça va bientôt faire 50 ans finalement qu'on a le droit d'avorter en France. Et tant il reste un gros tabou, il reste beaucoup de silence. Moi mes grands-mères sont encore de l'époque où elles ont eu des enfants, et dans un sens, elles n'auraient pas eu le choix légalement de pas en avoir, enfin de pas prolonger leur grossesse en tout cas. Et du coup, tout ça est à la fois vieux et tout récent, sûrement assez fragile encore. Les paroles sont pas, les langues sont pas complètement encore déliées. Il y a beaucoup de craintes aussi, je crois, de s'exprimer sur des vécus qui sont parfois complexes, et peut-être de peur justement qu'on soit pris pour des anti-choix, ou que tout ce qui peut être de l'ordre de l'ambiguïté dans l'avortement soit repris et déformé. Voilà.
Encore un long chemin à parcourir pour nous les femmes. Bien justement, on va avoir l'occasion de reparler de votre spectacle. Et avant ça, on voulait vous faire écouter un petit extrait du duo que vous avez réalisé. Ça arrive tout de suite.
Je sentais des petits tiraillements dans le ventre, je pensais qu'il y avait des choses qui se mettaient en place, et je me disais waouh, c'est juste énorme, c'est juste magnifique quoi, ce que le corps, la vie, ce qui, enfin, c'est cette chose aussi complexe, et que mon corps est capable de mettre ça en route, et c'était juste, je trouvais ça génialissime quoi. Voilà, et je trouvais ça dommage de mettre, que ce soit pas dans un projet de vie, et que j'allais y mettre fin, mais sans culpabilité outre mesure quoi. Mais j'ai touché ça, et avec le recul, quand du coup je serai jamais honte jusqu'au bout, je me dis, pour moi ça a été une expérience bénéfique, dans le sens où je sais pas, ça me fait du bien d'avoir senti que j'étais féconde, mais pas parce que si j'étais stérile ça soit une tare, voilà, mais parce que je l'ai senti, enfin ça me fait du bien de sentir que si j'avais voulu, mon corps il était capable de donner la vie, qu'il était, peut-être que ça serait pas aller jusqu'au bout, hein, parce que j'aurais fait une grossesse pathologique ou j'en sais rien, mais quelque part je bénis un peu cet aléa de la vie, parce que du coup, comme je l'ai pas vécu pleinement, j'ai vécu que ça, et j'en suis quelque part.
«
Donc Claire, vous nous l'avez dit, vous présentez le spectacle là-dessous avec le collectif Takamaka. Et justement, est-ce que vous voulez nous faire une rapide présentation de ce spectacle, mais également qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'élaboration?
Oui. Du coup, oui, comme je l'ai un peu déjà dit, c'est un spectacle qui se crée. Moi, j'avais envie de travailler sur ce sujet. C'était une envie qui est née de façon assez personnelle, mais l'idée étant pas de raconter ma vie, plus de noter que qu'il y avait encore beaucoup de silence, voilà, un gros tabou sur ce sujet. Et moi, je ressens un peu ma place d'artiste comme ça, en fait, sur comme. Une envie, comme mon rôle, c'est un peu, je trouve, d'ouvrir des fenêtres, soit sur le monde, soit sur des imaginaires. Donc là, en l'occurrence, sur ce spectacle là-dessous, c'est plutôt ouvrir une fenêtre un peu sur le monde tel qu'il est, ou qu'il me semble être, en tout cas, aujourd'hui. Et puis, il faut aussi noter que, voilà, moi, je me suis attachée à des témoignages du coup contemporains, plutôt qui se passent ici. Donc dans un pays où on a le droit, comme on disait, d'avorter, la liberté maintenant. Et puis du coup j'ai tout un travail en fait long de réflexion, de discussion, que ce soit des interviews que j'ai réalisées comme ça avec vraiment le micro posé, quelque chose d'assez formel, ou aussi des discussions en off qui ont beaucoup compté, des gens qui voulaient pas forcément se faire enregistrer, mais des fois quand on parle de ce qu'on fait, même au détour d'une rue, il y a une phrase ou deux qui vont avoir une importance énorme sur des choix qui sont faits dans le spectacle. C'est un seul en scène. Ça, c'était un peu une contrainte qu'on avait dans le collectif. Du coup, qui me fait interpréter plein de femmes différentes et même quelques hommes, et dans toute la diversité de leur vécu.
Voilà. D'où le choix final très pertinent d'interviewer des personnes différentes, avec chacune et chacun du coup, enfin des personnes, donc chacune des expériences qui leur sont propres, des expériences très très personnelles, individuelles. Et alors une autre question que nous on se posait, c'était par rapport au choix artistique. Enfin, c'est dans un spectacle, donc il y a de la mise en scène évidemment avec l'espace scénique dans lequel vous évoluez tout au long du spectacle, mais il y a aussi le titre. Là-dessous, pourquoi ce titre-là? Il y a toute une tension autour d'un mot qui fait tabou, comme vous le dites, l'avortement. Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un peu sur justement ces choix dans la réalisation du spectacle?
Alors le titre, j'ai mis vachement de temps à le trouver. Pendant tout un temps, j'appelais ça 12 semaines. Et typiquement, j'ai croisé une personne, je me souviens, au planning familial. Et en plus, depuis, c'est passé 14 semaines, le délai légal pour avorter de façon médicamenteuse. Et puis j'ai réalisé à ce moment-là, à travers elle, que ça faisait beaucoup débat, en fait, ces délais, que c'est pas du tout les mêmes tous les pays. Et du coup, je me suis dit, ça va pas, parce qu'en fait, mon spectacle est pas autour de ce sujet-là précisément, ou en tout cas uniquement. Et puis, là-dessous, il y a un peu une ambiance océanique, on va dire, qui peut un fil conducteur pour nous, et puis juste un paysage, en fait, pour permettre d'exprimer ces récits. Et pour moi, c'était un peu, là-dessous, c'est tout ce qui existe, et qu'on connaît pas, qu'on dit pas, qui est très, comme si on s'imagine bien là sous l'eau, avec des bruits un peu bizarres qu'on reconnaît pas forcément, avec un endroit aussi où la parole se propage pas, dans l'eau, on peut pas parler si facilement. Donc c'est un peu un symbolisme comme ça. Puis après, il y avait aussi le besoin de faire voyager ces vécus, comment on passe finalement de tous ces personnages d'un vécu à un autre. Et du coup, là, il y a eu un peu une tuse d'imaginer une bouteille jetée à la mer, mais qui, au lieu d'arriver nulle part, elle arrive à quelqu'un qui va répondre, etc., etc. Donc l'ambiance, de l'océan, elle répond aussi à ça.
Et justement, à travers tous ces choix, vous l'avez dit, vous n'êtes pas forcément concentré que sur la durée légale d'IVG, pour d'autres messages. Et quel serait, si vous aviez un message porté par ce spectacle, quel serait-il?
Je pense que ce serait principalement le fait de dire que, moi, quand j'ai réalisé les interviews, ça m'a marqué à quel point le fait de permettre aux gens de parler, ça leur faisait du bien. Et j'ai l'impression que sur le sujet de l'amant, on gagne à s'exprimer un peu plus librement que ça fait du bien à tout le monde en fait. C'est, je le dis dans le spectacle, c'est à peu près une femme sur trois et du coup un homme sur trois qui sont confrontés à une situation d'avortement dans leur vie. En fait, c'est vraiment beaucoup. Donc, je pense que quand si on vit ça et qu'en tout cas on a besoin d'en parler, il y a de fortes chances pour qu'on rencontre des gens qui ont traversé des choses similaires ou en tout cas qui peuvent être vraiment empathiques. Et je pense que tout le monde gagnerait dans son cul à plus partager les choses parce que tout simplement seul, on se rend compte que voilà, c'est des fois des difficultés, des fois non, mais en tout cas qu'on n'est pas seul, quoi, dedans. Et en fait, le tabou, encore assez présent, il donne cette impression. Il donne cette impression qu'on est seul à vivre ce qu'on vit. Et je pense que particulièrement sur le sujet de l'avortement, c'est pas vrai, quoi.
Et vous, Lorraine, du coup, puisque vous avez vu le spectacle, et en plus, comme vous nous l'avez dit, vous avez déjà reçu des femmes dans un processus d'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec Claire? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Une petite review du spectacle.
Non, bah le spectacle, donc j'ai pas eu la chance de le voir en direct avec l'ambiance des spectateurs, mais je l'ai regardé en replay. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que en fait tout ce qui est dit dans le spectacle, c'est des choses qu'on peut retrouver en consultation chez les patientes, autant parfois des patientes qui peuvent être en difficulté, mais d'autres patientes qui sont en train de nous trouver. Je pense qu'on évolue au niveau médical. Enfin, les médecins qui pratiquent des IVG, de plus en plus, sont sensibilisés aux difficultés que les femmes peuvent connaître dans ces parcours-là. Et donc, on est beaucoup, je pense, beaucoup plus empathique à une certaine époque où on va dire que c'était des gynécologues peut-être qui étaient un peu forcés de le faire parce qu'il y avait plein de choses qu'ils faisaient et l'empathie était peut-être moins là. Donc, on va dire que la part psychologique dans l'IVG, maintenant, on la considère quand même beaucoup plus, je pense, qu'avant. On fait pas, moi, par exemple, je fais pas une IVG toute seule. J'ai une équipe avec des conseillères conjugales et familiales, des psychologues si besoin, même s'il n'y a pas de temps présent. On explique que des années plus tard, ça peut ressortir, donc faut pas hésiter à en parler. Il y a des groupes de parole qui se montent, au planning familial ou ailleurs. Il y a besoin de libérer cette parole, effectivement, pour simplifier ou faciliter ou alléger ce parcours pour les femmes.
Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on va avoir l'occasion de, par la suite, de répondre à des questions qui ont été écrites dans une boîte à questions qui était disposée à la fin de votre spectacle, Claire. Avant ça, on va juste faire une petite pause musicale, mais on tenait à vous rappeler qu'il est possible de nous écrire si vous avez des questions à poser aux invités au 077 77 77 42. Voilà, on vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite.
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital gris, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça.
C'est trop tôt pour ça.
Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autant ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. C'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien. La chance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent, eux. Sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel, c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent. Et les larmes dans l'eau, qu'est-ce que tu peux y faire? Le ciel bleu rend presque le bar joli, presque. T'as 26 ans, 4, 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner et t'abandonner. Maintenant tu t'écoutes. Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. De l'amour, de respect, du baiser, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, baiser, désir.
Sans le savoir, j'ai commencé, j'avance vers ma chair, chérie. Sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers ta chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons, avançons vers nos chairs, chérie. Avançons vers nos chairs, guérir, avançons vers nos chairs. Sans le savoir, j'avance, j'avance vers ma chair, chérie. Sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers cette chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons, avançons vers nos chairs, chérie. Avançons vers nos chairs, guérir, avançons vers nos chairs.
Voilà, c'était Cher de Barbara Pravi, pour ceux que ça intéresse.
Donc on va passer aux boîtes aux questions, mais avant cela, on a sélectionné plus de questions de définition qui nous semblaient particulièrement importantes. Donc la première, quelle est la différence entre les termes IVG et avortement ? Et est-ce qu'il...
Alors je pense que la question est pour moi. Alors, le terme IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Après, un avortement, c'est l'interruption, enfin si on va regarder la définition stricte, c'est une interruption de gestation qui soit naturelle, donc soit une fausse couche, un arrêt spontané de grossesse, maintenant on appelle ça comme, ou provoquée, et l'interruption volontaire de grossesse, ou l'interruption de grossesse pour cause médicale. Donc il y a peut-être une petite différence, alors on dit souvent, on associe les deux avortements, mais un avortement et un arrêt de gestation, qui n'est pas forcément volontaire, peut être spontané.
J'avais bien aimé à l'issue du spectacle, dans la discussion, du coup il y avait une des conseillères du planning familial qui était là et qui dit qu'elle aimait bien utiliser quand même interruption volontaire de grossesse parce que ça appuie effectivement sur le fait de la volonté et que c'est ce qu'ils essayent de vraiment faire attention, que quand une femme vient avorter, elle le fasse avec toute sa propre volonté. Donc je pense que voilà, s'il y a peut-être une petite différence, c'est peut-être celle-là, même si l'acte au final est le même.
L'importance de souligner le fait que ce soit une entreprise qui est désirée, hein, qui est choisie, qui vient de soi, au final, cette différence.
Et nous, au niveau médical, on n'utilise pas le terme avortement, qui est le terme IVG, en fait. Ouais. Donc on spécifie, c'est une IVG, ou bien c'est un arrêt spontané de grossesse, anciennement fou, mais on n'utilise pas le terme avortement. Ouais.
D'accord. Autre petite question également au final un peu plus pour vous Lorraine, c'est vraiment médical, mais est-ce que vous pourriez nous parler de différentes méthodes IVG? On l'a mentionné un peu plus tôt, voilà, il y a l'IVG médicamenteuse et l'IVG de chirurgicale. Voilà, est-ce qu'on peut clarifier ces termes avant de poursuivre?
Oui, donc effectivement, vous l'avez bien dit, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser pour réaliser une interruption volontaire de grossesse. La méthode médicamenteuse, qu'on peut utiliser jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Alors 9 semaines d'aménorrhée, c'est des semaines sans règles. Ça équivaut à 7 semaines de grossesse, un peu notre jargon médical, pendant semaine d'aménorrhée. Cette IVG médicamenteuse, en fait, on utilise des médicaments. Un médicament qui arrête la grossesse, un autre médicament qui va permettre l'expulsion qu'on prend 48 heures après le premier. Et ça peut se faire en établissement de santé ou par des professionnels libéraux, et la patiente peut le faire à domicile. Et la deuxième possibilité, c'est une IVG instrumentale ou chirurgicale, c'est la même chose, qu'on peut faire jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, 14 semaines de grossesse. Et ça, par contre, se fait en établissement de santé. Elle peut être sous anesthésie locale ou générale. Alors maintenant, il y a des endroits où sous anesthésie locale, on peut le faire en centre de santé, dehors d'un établissement de santé, mais c'est les prémices. Voilà.
Merci.
Très bien, donc on va passer à la boîte aux questions. Donc avec Lisa, on va tirer au hasard à chaque fois des questions et puis on va vous les poser. Donc la première question, est-ce que les hommes trans peuvent se faire avorter ?
Je vais répondre encore à cette question. Oui, en fait, les hommes trans ils bénéficient du droit à l'IVG parce que du coup, s'il y a une grossesse dans leur utérus, donc ça veut dire qu'ils ont encore un utérus, donc ils peuvent bénéficier de l'IVG. Tout à fait.
Très bien.
Merci. Deuxième question, ça va plutôt également pour vous deux, parce que vous avez l'occasion, Claire, de rencontrer quand même pas mal de personnes qui ont vécu un avortement. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences psychologiques, pas seulement physiques, à long terme, à l'avortement? Par exemple, on parle souvent de baby blues. Est-ce que ça existe pour les femmes qui ont recours à l'avortement? Voilà, en tout cas, tout ce qui est notion de conséquences sur le psyché.
Alors, je commence par répondre. Ça dépend des femmes, en fait. Ça dépend d'une femme, de leur contexte de vie, de la façon dont ça se passe, de la façon dont l'interruption volontaire de grossesse se passe aussi. C'est quand même quelque chose qui est pas tout le temps évident. Ça fait poser plein de questions pour les femmes qui viennent IVG. Donc c'est pour ça qu'on est entouré, nous, de professionnels, de psychologues ou de conseillers, comme je disais tout à l'heure, de conseillères conjugales et familiales qui sont formées à la relation d'aide et qui peuvent accompagner quand il y a besoin. Mais il n'y a pas tout le temps besoin, et notamment pas tout le temps besoin sur l'instant. Parfois, il y a des choses qui se réveillent plus tard, notamment sur d'autres grossesses qui sont menées à terme, des choses qui se réveillent sur une ancienne IVG, et du coup, faut pas hésiter à pouvoir en parler. Ouais.
Ouais, non, ça se recoupe, moi, avec ce que les vécus que j'ai écoutés ou que j'ai lus. Je crois qu'il y a autant de... C'est ça qui est complexe, je crois, avec l'IVG aussi, c'est qu'il y a autant de cas et de situations que non seulement de femmes, mais aussi, enfin, même une femme s'y apporte plusieurs fois dans sa vie, ce sera pas forcément la même chose à chaque fois, dépendant de la situation de vie, du moment où ça arrive. Voilà. Mmh.
Merci. Après, il y avait la petite phrase de baby blues. Alors, baby blues, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve plus quand il y a une grossesse menée à terme parce que, et avec un nourrisson, quoi, qui est là. Donc, je sais pas trop si, effectivement, est-ce que s'il y a IVG, est-ce qu'il y a plus de risques de baby blues? Il n'y a pas forcément, je pense, de lien. C'est peut-être pas, on n'appellerait pas ça un baby blues, mais ça fait peut-être remonter d'autres choses, quoi.
Peut-être dire en profiter, puisque Lorraine parlait de concert conjugal et familial, c'est vrai qu'on en a parlé aussi après le spectacle mercredi dernier. Juste dire, une concert conjugale et familiale, on peut aller la voir même quand on n'est pas en couple, et même quand on n'a pas d'enfant. Et voilà, c'est pour ça qu'elles sont présentes aussi dans ces moments-là de vie, quoi. Hein, que c'est surtout des personnes qui ont parlé de relations aux autres, de relations à soi. Et voilà, c'est juste, je vais le dire, parce que je trouve que leur titre décrit pas bien tout ce qu'elles font et à quel point c'est génial d'ailleurs qu'elles soient là.
Merci Claire pour ça, parce que du coup, on a beaucoup de difficultés, nous, ici, au centre de santé sexuelle, à exposer, en tout cas, à ce que les étudiants comprennent ce qu'est une conseillère conjugale et familiale et à quoi elle peut servir. C'est vrai que son appellation, pour les étudiants, peut paraître un peu étrange et se dire « Non, c'est pas pour moi, hein, conjugale et familiale, j'en suis pas là ». Mais en fait, c'est surtout des personnes qui vont être dans la relation, enfin dans l'accompagnement ou dans l'aide, tout ce qui est relation affective et sexuelle. Et après, elles orientent vers aussi, elles peuvent orienter vers d'autres professionnels s'il y a besoin, mais elles ont quand même, elles sont formées à une relation d'écoute et d'orientation. Et voilà, on en a besoin.
Et puis, pas que sur l'IVG, quoi. C'est vous êtes dans la lutte contre les discriminations, voilà, sur tout ce qui peut nous concerner finalement à tout âge de vie, je sais pas moi, relations sexuelles, de genre, enfin voilà, tout ça c'est aussi des sujets et des personnes auxquelles on peut s'adresser et à qui on peut parler. Il y a ce personnage dans le spectacle qui dit j'aurais bien voulu en parler, au fond je savais pas avec qui. Ben voilà, on peut parler de tout ça avec une conseillère conjugale et familiale. Je crois que bon, ici à Grenoble, je pense que les collégiens et les lycéens sont plutôt bien lotis et sûrement les croisent dans leur scolarité. Franchement, à chaque fois qu'on parle de ça dans les discussions après les spectacles, j'ai l'impression que personne n'a eu ces fameux cours d'éducation à la vie intime et sexuelle. Et moi-même d'ailleurs, je crois que j'en ai jamais eu en fait dans ma scolarité. Personnellement,
je pense que dans la loi, ça doit être, je crois, c'est chaque année au minimum deux cours.
C'est deux ou trois.
Deux ou trois. Ouais. Donc ça fait un total de 36 cours sur tout l'enseignement primaire, secondaire, voilà, et au final, c'est vrai que moi j'ai 22 ans, hein, j'en ai deux.
J'ai dû en avoir 3 et j'ai 20 ans, donc effectivement.
Donc c'est vrai que les structures, tout ce qui est mis à disposition, que ce soit justement pour l'étudiant, au centre universitaire, au centre de santé universitaire, évidemment, publié beaucoup plus d'étudiants, mais c'est une question, que ce soit l'avortement ou d'autres, comme vous l'avez mentionné, Claire, genre, tout ça, qui sont des questions qui ne se limitent absolument pas à des jeunes personnes. C'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours au courant de toutes ces structures d'écoute pour aider les personnes, et donc dans l'avortement les femmes, ou en tout cas les personnes avec un utérus, à trouver cette oreille attentive dont le personnage du spectacle par exemple n'a pas eu la chance d'avoir. Après, il semble qu'au centre universitaire de santé, comme vous l'avez dit, il y a toujours cette proposition d'accompagnement psychologique pour les personnes qui viennent se faire avorter.
Oui, ouais, systématiquement, effectivement, on propose. Et puis, parfois, pas évident pour les patientes de revoir un autre professionnel, de réexpliquer pourquoi, etc. Elles n'ont pas forcément envie de voir plusieurs personnes. Parfois, je les revois moi aussi. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseillère conjugale et familiale, mais on a de l'empathie et de l'écoute. Et puis, voilà, on est là pour recevoir un petit peu leurs questionnements et leurs doutes.
Mais c'est important aussi de pouvoir créer une zone de confort et que ça se fasse dans les meilleures conditions. Bien, merci. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Et je pense qu'elle vous est adressée à toutes les deux. Donc, vous avez perçu des différences dans les entretiens au cours des différentes années, donc que ce soit dans les termes employés, potentiellement les sentiments qui ont pu peut-être changer, que ce soit sur la honte, de la culpabilité ou au contraire plutôt des sensations d'empowerment, de se sentir bien. Voilà. Est-ce que vous avez vu des différences?
Je sais pas. Ouais, je commence à répondre, puis non, j'y vais. Alors, moi, je suis jeune sans être très jeune, mais je fais pas d'IVG, je pratique pas d'IVG depuis si longtemps que ça. Et du coup, dans ma pratique, en tout cas dans les patientes que je reçois, je vois pas de changement, mais parce que j'en fais que depuis 2000, alors j'en ai fait un peu en 2011, puis après que depuis 2017 un peu plus fréquemment. Je pense qu'il faut remonter à, il aurait fallu qu'il y ait une de mes collègues médecins plus anciennes, on va dire, pour qu'ils se répondent à cette question.
Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport à avant que ce soit légal. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux de comment je fais et maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça implique. Je pense qu'après, dans les travaux un peu historiques, c'est sûr qu'il y a différentes phases au niveau de comment on parle d'IVG. Et à côté de ça, au-delà de ça, en fait, comment on parle de contraception, il y a eu des moments où même pour les besoins, au moment des guerres, on avait besoin de la population, quoi. On avait besoin que les gens fassent des enfants. Alors du coup, ça avait une implication en fait sur les discours, quoi. Et au contraire, à des moments plus creux, et là il y avait finalement plus de propagande, enfin de pub en fait pour la contraception. Ouais, je pourrais pas être plus dans le détail que ça, mais c'est vrai que je renvoie aux travaux de Maëlle Larère, qui est une conférencière qui était venue l'an dernier et qui avait retracé un peu les parcours du droit à l'IVG en France pour les différentes années. C'est sûr que les discours ont changé.
Merci beaucoup pour cette recommandation. Donc, elle a écrit 2 livres sur justement l'histoire de l'avortement en France et du rapport à la contraception entre les pouvoirs publics. Justement, Claire, vous parlez de ces discours, soit de promotion, soit plutôt de restrictions sur tout ce qui était contraception. Donc, un point important au final.
Et peut-être aussi, pour des recommandations aussi d'expérience, il y a un livre qui est connu maintenant, mais L'événement de Delano, qui justement est peut-être un peu plus ancien maintenant, et montre dans des périodes d'émancipation femme, plutôt dans l'université, dans l'accès à ses études, le sentiment de honte pouvait être créé chez ces femmes à qui on disait si vous avez recours à l'avortement, vous allez, ou justement qui étaient plus ou moins encouragées. Et en fait, elles montrent le paradoxe de, à la fois, on encourage à le faire pour justement pouvoir continuer dans des études, mais en même temps, tous les hommes qui sont autour d'elles, elles montrent comment elles se sentent sales auprès d'eux et d'elles. Aussi, des femmes qui, c'est un tabou, personne ne peut en parler. Et du coup, c'est intéressant de voir peut-être les évolutions. Et dans le spectacle, on voit aussi assez régulièrement, on a des visions aussi à la fois parfois anciennes, mais aussi récentes. Et justement, je trouve que c'est une recommandation et ça qui mérite d'être lue.
Ouais. Peut-être dire aussi, enfin moi, on jouait dimanche ailleurs et il y avait des adolescents, quoi, je pense, lycée, qui, avec tout ce qui se passe, en plus, on se met l'impression que, bon, je sais pas si t'as tout ça, non, maintenant ça va se libérer, parole et tout. Alors je pense qu'on a un petit phénomène médiatique là en ce moment, et c'est super, tant mieux. Mais je sais pas si c'est hyper représentatif et je pense qu'encore dans beaucoup de familles, c'est pas si évident d'en parler. C'est pour ça que le mot, il apparaît quasiment jamais de tout le spectacle. Bon, c'est un peu un moyen qu'on a utilisé aussi pour montrer ce tabou-là. Mais c'était aussi ce que m'avait dans le partage avec justement l'équipe du planning familial, où elle me disait que d'une façon générale, les personnes, quand elles viennent pour un IVG, elles ont tendance à jamais dire oh, à dire je viens parce que j'ai un petit souci, il m'arrive quelque chose. Donc toujours quand même, il y a quand même, je pense, voilà, ça doit dépendre un peu des contextes familial, social, mais il reste quand même de la difficulté, quoi, à dire simplement. Et c'est vrai que j'imagine, même moi encore, j'imagine mal une discussion avec une amie. Ah, ça va, t'as fait quoi hier? Moi, j'ai avorté hier. Enfin, voilà, ça sortirait pas comme ça, quoi. Et c'est normal, d'ailleurs. C'est pas, comme disait Lorraine, c'est pas banal. Mais voilà, pour dire, peut-être pas forcément dans l'histoire, mais au niveau du présent, qu'est-ce que j'ai pu ressentir?
En fait, c'est pas banal, mais c'est pas compliqué. Donc, effectivement, vu de l'extérieur, on pourrait dire, bah, c'est bon, j'ai en consultation une fois, je prends un médicament, ça arrête la grossesse, le deuxième, j'expulse, en 40 heures, c'est fait, la vie reprend son cours. Mais il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, au niveau émotionnel. Donc, c'est pas banal, c'est pas compliqué, mais ça fait bouger beaucoup de choses là-dessous. Ouais.
Moi, ça me fait penser au discours de Simone Veil, justement, quand elle a présenté cette loi, défendu cette loi devant le Parlement, qui dit que une femme qui n'a recours à l'avortement ne le fait de gaieté de cœur, mais et qu'évidemment, il y a énormément de conscience. Et d'ailleurs, on a pensé au manifeste qui a été le manifeste des 343 femmes qui ont déclaré, c'était en 71, avoir déjà eu cours à l'avortement. Il y a aussi 131 médecins, ça c'est un autre manifeste, qui ont signé un pour eux dire eux et elles, peut-être eux à cette époque.
Je pense que 343 c'était les femmes.
343 c'est les femmes,
331
c'est majoritairement des hommes peut-être encore à cette époque. Mais et qui avaient donc eux signé pour dire nous avons déjà pratiqué l'IVG sur les femmes qui le souhaitaient. Et donc il y avait vraiment cette idée déjà à ce moment-là de vouloir briser le tabou et d'enlever ce sentiment de honte et de culpabilité sur les femmes. Voilà, ça me fait penser à ce que vous dites.
Ouais. Là-dessus. Ça a été publié dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Et du coup, ça a été quand même, ça a ouvert la voie après à la loi qui a été adoptée en 75. Mais ouais, c'était un grand courage de ces femmes connues et non connues de sortir de l'ombre, on va dire.
Oui,
merci à elle.
Oui, déjà merci.
Merci à elle.
Et d'autant que vu que c'était criminalisé à l'époque, c'était une prise de risque légale de s'exposer à travers un manifeste.
Alors pour la question suivante qui s'adresse plutôt à Claire, alors quelles sont les réactions les plus fréquentes à votre spectacle? Y en a-t-il qui vous ont particulièrement marqué?
Ouais, il y en a plein. j'ai pensé à quelques-unes qui sont vraiment pas exhaustives, mais qui ont été des moments qui m'ont bien touchée. Une médecin qui est pourtant déjà bien engagée et pratiquant des avortements, qui m'a dit que ça allait changer pratique. Et c'était hyper fort, quoi, pour moi d'entendre ça, parce que là c'est un impact très concret et réel sur la vie des femmes qu'elle va accompagner en fait à l'issue de mon spectacle. Donc voilà, je pense que pour elle, le fait d'entendre des vécus dans toute leur complexité, peut-être avec plus de temps que ce qu'elle a habituellement, et elle se rendait compte de peut-être des fois qu'elle disait, ou au contraire qu'elle ne disait pas certaines choses, et que ce serait vraiment mieux de le faire autrement, voilà, pour certaines personnes. Donc il y a eu ça, il y a eu une, assez simplement aussi dans les professionnels, une conseillère conjugale familiale qui m'a dit que ça la rendait fière de faire ce qu'elle faisait. Et pareil, un bel hommage, et j'étais moi aussi fière qu'elle ressente ça, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour leur métier. Ensuite, sur des un peu plus des personnes, il y a un truc qui vient de temps en temps, c'est qu'on me dit et la place des hommes dans tout ça, quand même les hommes sont pas très présents dans le spectacle et tout ça. Et En fait, ils le sont assez. Alors, c'est sûr qu'ils sont pas majoritaires parce que ça correspond aussi aux témoignages que moi j'ai récoltés, qui étaient plus féminins que masculins. J'ai quand même eu hein, j'ai lu majoritairement des témoignages d'hommes et qui y a un personnage d'homme qui est représenté. Après, ils sont beaucoup évoqués. En fait, j'ai compté, il y en a une dizaine au final qui sont présents au chapelle, donc c'est pas si peu. Par contre, c'est vrai qu'ils sont représentés d'une façon dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire une façon un peu impuissante, une façon un peu perdue, pas trop savoir quoi faire. Et ça correspond pas à l'image encore actuelle hein, de ce qu'on attend des hommes dans notre société patriarcale, quoi, de vérité, de puissance, de domination, d'assurance en fait. Voilà. Ça c'est quelque chose qui revient assez souvent et qui pour moi marque quand même que vraiment on manque de représentation masculine qui soit dans la fragilité. Voilà, je trouve ça... Moi j'ai envie d'hommes fragiles dans le monde. Et par rapport à ça, un peu en lien, il y a un adolescent là, en janvier qui m'a dit que justement ça lui avait fait du bien le spectacle parce que il avait vu récemment des spectacles dits féministes où il avait l'impression d'être, de pas avoir sa place, enfin, qu'il valait mieux qu'il quitte le public et que tout était de sa faute. Donc ça m'a fait du... J'étais contente voilà, qu'un jeune homme d'aujourd'hui ben, puisse se sentir investi, impliqué dans toutes ces questions-là. Et puis, bon, je spoil un peu, tant pis. Je spoil un peu un truc du spectacle ou pas?
Bah oui.
Ah, c'est pas grave. Il y a un des témoignages où une personne raconte que quand elle a vécu son avortement de façon médicamenteuse, elle est dans la douche et puis vraiment il y a un truc assez conséquent quoi qui sort de son corps. Donc et elle appelle ça le fameux steak. Mmh. Et ça c'est un truc qui est revenu plusieurs fois dans les témoignages. C'est pour ça que je l'ai mis. Et puis bon, elle le fait de façon tout à fait joviale et c'est comme ça qu'on a essayé de faire passer ce truc un peu dans le spectacle. C'est un moment où en général ça arrive beaucoup. Je pense que ça lâche un truc. Souvent on me dit ah ouais, moi aussi j'ai vécu ça et tout ça. Et pour moi, ça marque aussi à quel point, voilà, on est très inconscient de ce qui se passe dans notre corps. Je pense qu'on subit aussi des années de mouvements anti-choix qui nous ont fait croire que quand on avortait, on était en train de tuer un enfant et que du coup, on allait avoir vraiment un fœtus qui allait sortir de notre corps et tout ça, alors qu'en fait, ça reste à ce stade-là un amas de tissus, de cellules et tout ça. Donc c'est l'histoire du steak qui ressort beaucoup tôt auprès en général des plus jeunes, des lycéennes qui me disent mais le steak c'est obligé tout ça. Alors, je dis, non c'est pas obligé, ça dépend des femmes, des corps, du moment, de plein de choses. Mais voilà, c'est vrai que ça confronte hein, à quelque chose de très concret, très réel qui est pas évident forcément à gérer des fois aussi, mais des fois non. Et puis peut-être pour finir, un dernier truc qui m'a extrêmement touchée, c'était quand on est allé au local des femmes, qui est un lieu d'accueil pour les femmes isolées, en situation de précarité. Et il y avait cette dame qui venait, je ne sais pas d'où, elle ne m'a pas dit, mais ça à la base, et qui a beaucoup lâché quoi après le spectacle. Elle était en plus très pratiquante, croyante, et du coup, je pense qu'elle était tiraillée sur... Que sa religion clairement lui disait que c'était pas top top quoi d'avorter, mais en même temps elle était très ouverte à tout ce qui se passait et pour cause voilà, au bout d'un moment elle a dit à quel point elle avait perdu des amis elle dans son pays qui avait voulu désolé ça me touche un peu à la fois je pense à ça, mais voilà, des femmes qui en sortent en fait tout simplement d'avorter leur destinité. Et voilà, souvent je pense à elle. C'est vrai que je suis super contente de ce qui se passe en ce moment pour nous en France. Mais je crois que l'IVG, comme beaucoup d'autres sujets, a pas de frontières. Et il faut qu'on combat pour ces femmes-là dans le monde. Quoi, parce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui meurent pour vouloir avorter. Voilà.
Bien, on vous remercie.
Ouais, merci beaucoup pour cette réponse très riche. Ça me fait penser à la figure du centre. Qui revient très très fréquemment, notamment en manifestation, on le voit sur les réseaux sociaux, quand il y a des posts justement sur l'avortement, sur la légalisation, la légalisation de l'IVG dans des pays autres que la France. Je vois cette pancarte avec un cintre et en dessous écrit « Plus jamais ça ». Parce qu'effectivement, comme vous disiez, Lorraine, hein, on parlait un petit peu du petit point historique, il y a beaucoup de risques à avorter clandestinement, des complications médicales qui peuvent être très graves, effectivement, des femmes qui en meurent. C'est Et très touchant.
Et d'ailleurs, enfin, on peut rappeler qu'en termes de chiffres, il n'y a pas forcément d'augmentation ou de réduction du recours à l'IVG avec la légalisation. En revanche, ça réduit presque entièrement, voire totalement, la mortalité des femmes qui la pratiquent. Donc c'est juste une des lois qui permettent de réduire la mortalité.
Oui, oui, parce que de toute façon, il n'y a aucun de moyen de contraception qui est sûr à 100%. Donc en fait, à partir de des grossesses non désirées, il y en a. Voilà. Et du coup, bah voilà, ça peut pas ne pas exister en fait.
Alors pour la prochaine question, ça revient au final un peu clair sur ce que vous disiez au début, qu'il y avait sur la représentation, pourquoi il n'y a pas autant de représentation, enfin plutôt une si faible représentation des hommes dans votre spectacle. La question étant, pourquoi l'avortement est une démarche qui est dans la majorité des cas entreprise par des femmes seules. Donc ça, c'est une question qui s'adresse plutôt à vous deux, j'ai envie de dire. Voilà.
Ouais, femmes seules, alors d'expérience, parfois on les voit seules, mais elles sont pas, elles viennent seules au rendez-vous et encore pas tout le temps. Mais parfois il y a quand même un compagnon qui est là. Moi, je demande souvent effectivement déjà s'il y a un compagnon ou pas, et si la décision elle est, enfin s'ils étaient ok les deux sur décision, s'il n'y en avait pas. Quoi. Et bon, quand elles sont en Ougara, quand il y a un compagnon, souvent ça arrive qu'ils en aient parlé, enfin c'est très souvent, la plupart ils en ont parlé ensemble, et ils sont arrivés à une décision ensemble. Donc même si on les voit pas sur le devenu tableau, je pense qu'il faut pas les oublier, parce que même si l'IVG, c'est la femme qui le vit dans son corps, on va dire que toute la part aussi psychologique, l'homme le vit aussi, et on a tendance à l'oublier. Comme on oublie aussi, parfois, lors d'une grossesse menée à terme, en fait, pour les pères, c'est aussi un boulot. Mais pour un homme qui va être confronté à une IVG, c'est aussi un boulot. Mais on a tendance un peu à les oublier.
Je crois qu'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que quand on avorte, il faut s'organiser. C'est bête, hein, mais prendre des rendez-vous, tout ça. Enfin, donc, ben, en fonction de ce qu'on fait dans la vie, faut prendre du temps pour ça. Quand les femmes, en plus, elles ont déjà des enfants. Enfin, ça, il y a toute une organisation à travers ça. Et je pense que, voilà, pour le coup, c'est là qu'on voit que, je pense qu'on n'en est pas encore au stade où ce serait très admis qu'un homme dise, désolé, je suis pas là aujourd'hui au boulot, je vais au rendez-vous parce que ma femme avorte, des choses comme ça, quoi. Donc, là, il me semble qu'il y a aussi un enjeu un petit peu, là-dedans. Et après, sur la présence, moi c'est vrai que j'ai eu des témoignages où il n'y avait à aucun moment le partenaire en question était mentionné. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu dis, Lorraine, ça joue beaucoup sur la situation de à quel endroit elle arrive cette grossesse. Et effectivement, dès que ça arrive vraiment dans un couple en général, il se passe quelque chose, et des fois d'ailleurs qui peut être hyper porteur. Moi j'ai eu aussi une interview de quelqu'un qui me disait que l'avortement qu'elle avait vécu avec son compagnon, et ça les avait amenés vers en fait un désir d'enfant, mais par contre ils avaient aucun regret d'avoir fait cet avortement, mais pour dire que ça peut vraiment avoir des conséquences. Et après c'est vrai que quand ça vient d'une relation qui est plus passagère, plus éphémère, c'est je pense aussi tout simplement plus naturel pour les femmes de faire les démarches seules, et puis que c'est quelque chose de tellement intime, on n'a pas forcément envie de partager ça sur le moment, peut-être aussi pour se protéger un peu des avis des autres. Voilà, qu'en parler, c'est ça, c'est aussi se confronter tout ce qu'on va dire de moi je pense que tu devrais faire ça, et voilà, c'est déjà un choix tellement difficile des fois, je pense que la clé est sûrement d'en parler aux personnes bien choisies, quoi.
Ou aux professionnels.
Ou aux professionnels, ou les deux.
Ah ouais. Mais oui. Parce que parfois, il y en a qui sont accompagnés effectivement pas par le potentiel père, mais par une amie, par. Et du coup, il y a quand même parfois un accompagnement autre, même si le père n'est pas là, n'existe pas.
Eh bien, on vous remercie. Justement, la question vous a peut-être plutôt adressé, Lorraine, par rapport aux dispositifs qui existent, la question aurait été vers qui pouvoir s'adresser. Il y a peut-être des lieux en ligne, physiques, et justement, quel de dispositifs?
Oui. Alors, oui, il faut quand même dire tout ce qui existe. On va dire que le PDC, c'est le centre de santé sexuelle, diversité, qui se trouve dans l'ensemble du centre de santé étudiant au premier étage, et où les femmes ont accès à l'IVG médicamenteuse, hein, pas instrumentale. Voilà. Après, d'autres centres de santé sexuelle aussi dans le bassin proposent un accès à l'IVG. Le planning familial, qui est national, propose aussi. Et donc il y en a à Grenoble. Après, on a deux centres d'orthogénie en étalement de santé, au CHU de la Tronche, la clinique mutualiste. Et après, un téléphone régional qu'on peut appeler, c'est le 0810 810 714, qui est géré par le Mouvement français du plan familial. Il y a un numéro national aussi, le 0800 08 11 11, pour trouver les professionnels qui peuvent faire des visites. Et il y a un super site internet qui s'appelle le RPAI, le réseau périnatal Alpes-Isère. Et là, il y a toute la liste des professionnels qui pratiquent les IVG et plein d'infos sur les IVG, les délais, comment ça se pratique, voilà. Et il y a un autre site internet qui s'appelle, j'ai les adresses, mais j'ai encore regardé cet après-midi, il est un petit peu moins à jour que le réseau périnatal Pizer, parce que le site internet IVG les adresses, il est national, il y avait un petit peu moins de, il était un petit peu moins fourni que le RPAI.
Et peut-être un petit point, Briançois, du coup on est aussi en direct sur Fréquence Mistral à Brisson. De ce côté-là, il y a aussi une conseillère légale et familiale, voilà, qu'on peut contacter et qui a la maison du département, maison des solidarités sur Briançon. Pour, je pense, plus aux lycéennes, il y a les infirmières du lycée qui sont au top. Et puis, il y a un planning familial aussi à Gap. Voilà, et peut-être aussi un petit mot plus outil, finalement, en ligne numérique, mais du coup, qui peut aider, je trouve, aussi dans des zones où il y a peut-être moins de choses sur place. C'est une ONG qui s'appelle Safe to Choose, to avec un 2. Et là, où on peut chatter, en fait, directement en ligne avec des pères conjugales et familles dans le monde entier. Et en plein de langues différentes, parce que du coup je crois qu'il y a des dizaines de conseillères conjugales familiales du coup qui parlent, je pense, quasiment toutes les langues, et qui voilà peuvent très très vite aussi orienter en fonction de là où on est géographiquement vers des personnes en présentiel.
C'est une superbe initiative. Toutchose, du coup, .fr ou .com?
Oui, je pense.
En tout cas sur Google vous devrez les trouver facilement. Une question, au final, on est deux. Est-ce qu'avoir recours une ou plusieurs fois à l'IVG, ça a un impact sur la fertilité des femmes, et quelles sont les différences au niveau des conséquences entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale?
Alors, par rapport au risque sur la fertilité, il n'y a pas de risque. On le voit d'ailleurs parce que parfois, on revoit une patiente qui a déjà fait une IVG qui en refait une autre. Donc, ça veut dire que ça marche toujours près. Après, les conséquences entre l'IVG médicamenteuse et chirurgicale, on va entrer dans la technique. C'est assez safe comme dans l'une que l'autre méthode. De plus en plus, c'est beaucoup plus juste que le centre. donc, il y a très, très peu de séquences, quoi. Donc, conséquences psychologiques, mais ça on l'accompagne aussi. Non, faut pas hésiter. Si jamais on freine par rapport au risque sur la fertilité ou qu'on a peur de certaines conséquences corporelles, faut pas hésiter à venir en parler.
C'est vraiment, je pense, ça c'est les vestiges des propagandes anti-avortement, hein. Faut dire, voilà, vous pourrez jamais plus avoir d'enfant, il va vous arriver des trucs graves et tout ça, ça vient de là, quoi. Donc, tout va bien.
Merci pour toutes ces informations, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette super intéressante émission.
Merci à vous.
Nicolas, tu veux peut-être rappeler les dates de votre spectacle?
Que votre spectacle là-dessous, chez les Quignards, à la Roche de Ram, le 15 mars, et ce sera joué à 20h, je crois.
C'est ça, ce vendredi à 20h, le bar ouvert à 19h30.
Ali pour écouter le steak.
Ouais, c'est ça.
Et puis n'hésitez pas aussi à vous, du coup,
au centre de santé étudiant. N'hésitez pas, parce que on est là. Il y a cet accès pour les étudiants à l'IVG au centre de santé sexuelle. Donc voilà, parfois ça évite de courir à l'hôpital dans une structure un peu qui fait peur. Là, on peut le faire tranquillement à la maison.
On serait super bien accompagné en plus, parce que le personnel du CSU est vraiment super. Merci à la technique aussi de Radio Campus qui assure derrière tout ça, derrière cette émission.
Et du coup, merci pour cet entretien.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves.
femmes.